Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le Petit Larousse des rois de France est un ouvrage de référence historique collectif consacré aux souverains qui ont régné sur le territoire français. Des premiers royaumes francs à la disparition de la monarchie au XIXe siècle. Conçu dans l'esprit éditorial de Larousse. Il privilégie une consultation accessible, notices biographiques, repères chronologiques, généalogie et iconographie permettent de situer rapidement chaque règne. Son objet n'est pas de proposer une thèse unique sur l'histoire de France, mais de donner des instruments de compréhension à travers les figures royales et les continuités dynastiques. Le livre rappelle ainsi que la royauté ne se réduit pas à une succession de personnages célèbres, elle est aussi une construction institutionnelle, territoriale et symbolique. Les changements de dynastie, les crises de succession, les guerres. Les rapports avec l'Église et l'affirmation progressive de l'État trouvent leur place autour des biographies souveraines. Il s'adresse donc autant au lecteur cherchant des repères qu'à celui qui souhaite relier les destins individuels des monarques à la longue durée de l'histoire politique française. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une chronologie des règnes comme ossature de l'histoire de France. L'apport premier d'un dictionnaire consacré au roi est d'ordonner une période très longue autour d'une chronologie intelligible. Les souverains constituent des jalons commodes. Mais l'ouvrage invite surtout à comprendre les transitions passage des Mérovingiens aux Carolingiens, installation des Capétiens, branches dynastiques successives, puis rupture révolutionnaire et retour monarchique. Cette organisation évite de considérer l'ancien régime comme un bloc immobile. Elle rend visibles les moments où la légitimité est disputée, où le territoire est morcelé, ou au contraire, consolidé et où le pouvoir royal change d'échelle. Une date de règne ne suffit évidemment pas à expliquer une époque. Elle fournit cependant un cadre pour replacer événements, institutions et acteurs. Le lecteur peut ainsi distinguer les règnes fondateurs, les minorités royales, les régences et les périodes de guerre civile ou étrangère. Cette perspective est particulièrement utile pour comprendre que la continuité monarchique fut souvent reconstruite après des crises plutôt que simplement transmise sans heurts. Le format de référence rend l'information consultable par souverain. Tout en conservant la logique d'ensemble, l'histoire des rois devient une porte d'entrée vers l'évolution du royaume, puis de l'État français. Deuxièmement, les dynasties et la succession au cœur de la légitimité monarchique. Le livre met nécessairement en lumière une question décisive de la monarchie qui peut régner, et à quel titre. Les dynasties ne sont pas de simples arbres généalogiques. Elles organisent la transmission du pouvoir, la mémoire politique et les rivalités entre prétendants. La compréhension des familles mérovingiennes, carolingiennes et capétiennes. Ainsi que des différentes branches capétiennes, éclaire la manière dont la couronne a été pensée comme un héritage. Les généalogies aident notamment à voir pourquoi les liens de parenté pouvaient devenir des arguments politiques. En France, comme dans les relations avec les autres maisons souveraines européennes. Mais l'hérédité ne supprimait pas l'incertitude d'essais prématurés, absence d'héritiers directs, minorité et contestation pouvaient ouvrir des périodes de tension. L'intérêt d'un tel ouvrage est de restituer ces mécanismes sans les réduire à des anecdotes familiales. La succession engageait la stabilité du royaume, la fidélité des grands, la reconnaissance religieuse et parfois la guerre, en suivant les changements de branche ou les restaurations. Le lecteur comprend aussi que la monarchie française a développé des règles et des symboles destinés à rendre la continuité de la couronne plus robuste que les aléas d'une personne. La biographie royale prend alors une portée institutionnelle, chaque règne s'insère dans une définition évolutive de la souveraineté. Troisièmement, du roi seigneur au centre d'un état territorial et administratif, à travers la succession des monarques. Le Petit Larousse des rois de France permet de suivre une transformation essentielle, celle d'un pouvoir initialement limité par la fragmentation féodale vers une monarchie, disposant d'instruments administratifs, juridiques et fiscaux plus étendus. Il serait erroné de présenter ce mouvement comme linéaire ou inévitable. L'autorité royale a connu des reculs, des dépendances et des négociations constantes avec les princes, les seigneurs, les villes, les parlements et les corps constitués. Néanmoins, les notices consacrées au règne donnent des points d'appui pour comprendre l'élargissement progressif du domaine royal, l'affirmation de la justice du roi et le renforcement de l'administration. Le lecteur peut ainsi relier les grandes figures de la monarchie à des transformations qui dépassent leur personnalité centralisation relative, développement des agents du pouvoir. Organisation militaire et capacité à lever des ressources. Cette approche évite deux simplifications opposées, celle d'un roi tout-puissant de toute éternité et celle d'un État créé soudainement à la fin de l'Ancien Régime. La royauté apparaît plutôt comme un système dont les moyens et les limites changent selon les siècles. L'ouvrage offre donc une base solide pour distinguer l'image publique du monarque de la réalité concrète de l'exercice du pouvoir. Quatrièmement, guerres, alliances et territoires les règnent dans leur cadre européen, les rois de France ne peuvent être compris dans un horizon uniquement national. Leurs mariages, leurs héritages, leurs conflits et leurs alliances les inscrivent dans une Europe de principautés, de royaumes et d'empires concurrents. Un ouvrage centré sur les souverains donne à voir combien la question territoriale structure les règnes défendre des frontières, réunir des terres. Faire valoir un droit dynastique ou affronter des coalitions peut transformer durablement le royaume. Cette dimension est indispensable pour interpréter les grandes guerres médiévales et modernes sans les ramener à la seule volonté d'un roi. Les capacités financières, les intérêts des élites, les équilibres diplomatiques et les alliances matrimoniales pèsent également sur les décisions. La place accordée aux repères chronologiques et aux illustrations aide à visualiser les continuités entre histoire dynastique et évolution territoriale. Elle rappelle aussi que le prestige monarchique se jouait au-delà des frontières cérémoniales, victoires militaires. Liens familiaux et traités contribuaient à la reconnaissance du souverain. Le lecteur gagne ainsi une lecture plus précise de la formation française. Le royaume ne s'est pas développé isolément, mais dans une compétition politique européenne. Les notices royales servent ici de point de passage entre l'histoire intérieure, la diplomatie et les recompositions de l'espace. En dernier lieu, les limites de la monarchie révélées par les révolutions et les restaurations, la série des rois conduit inévitablement aux limites historiques de l'institution monarchique. Les derniers siècles de la royauté montrent que la légitimité fondée sur la naissance, le sacre et la tradition ne pouvaient plus être séparées des attentes politiques, sociales et financières qui traversaient le pays. La Révolution française constitue à cet égard une rupture majeure, elle remet en cause non seulement un souverain, mais le principe même d'un pouvoir incarné par une dynastie. Toutefois, l'histoire ne s'arrête pas à cette cassure. Les retours monarchiques du XIXe siècle rappellent que les formes de légitimité antérieures ont continué à compter, tout en devant composer avec des institutions, des mémoires et des aspirations nouvelles. Un dictionnaire des rois a l'avantage de rendre cette séquence lisible à l'échelle des règnes, sans effacer la portée des changements constitutionnels. Il permet de comparer les conditions dans lesquelles la monarchie tente de se réformer, est renversée ou est rétablie. Cette conclusion de parcours empêche une vision téléologique selon laquelle la République aurait été l'issue évidente de toute l'histoire française. Elle montre plutôt une concurrence durable entre des conceptions du pouvoir, dont les souverains, leurs familles et leurs régimes ont été des acteurs centraux. En conclusion, le petit Larousse des rois de France convient d'abord aux collégiens, lycéens, étudiants débutants et lecteurs curieux qui souhaitent consolider leurs repères sur la monarchie française. Il peut également servir aux familles et aux enseignants comme outil de vérification rapide grâce à une présentation qui associe biographie, chronologie, dynastie et documents visuels. Son bénéfice pratique est de rendre consultable une matière souvent perçue comme confuse homonymie entre souverains. Enchaînement des maisons régnantes, dates de règne et grands tournants politiques deviennent plus faciles à relier. Son intérêt intellectuel est plus large. En suivant les rois, le lecteur voit se transformer les fondements de l'autorité, les frontières du royaume, le rapport entre héritage dynastique et institution, ainsi que les conditions de la disparition de la monarchie. Par rapport à une biographie isolée d'un souverain ou à une synthèse universitaire très développée, cet ouvrage se distingue par son ambition de panorama et par sa vocation de référence accessible. Il ne remplace pas des études approfondies sur la féodalité, l'absolutisme ou la révolution. Il offre plutôt la charpente chronologique indispensable pour les aborder avec davantage de précision. Sa valeur propre réside dans l'articulation entre les individus qui ont porté la couronne et les continuités historiques qui les dépassent. Pour un lecteur voulant passer d'une connaissance fragmentaire des grands rois à une vision structurée de la monarchie française, c'est une porte d'entrée particulièrement utile. Si vous souhaitez soutenir Collectif, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.